Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 7 mars de l'an 2000 à Saint-Jeudard.
Il y a une petite question. Que serait une phénoménologie de la figure, de la figura du visage humain faite dans la lumière de la substance ? Ce serait une autre phénoménologie, pas husserlienne, puisque celle de Husserl, ça consiste à mettre entre parenthèses l'être, le poquet. Alors, vous comprenez que la substance, c'est la source de l'être. Donc, dès qu'on considère quelque chose dans la lumière de la substance, on le considère comme un accident de l'être. Regarder la figura dans la lumière de la substance, c'est regarder ce que la figura peut nous dire de l'être, comment la figura nous manifeste la substance. Elle est comme une sorte de manifestation de l'invisible. La figura de l'homme, les yeux, la figura de l'homme, son regard dit son âme, manifeste son âme. Et la mère de l'enfant le dira tout de suite, je lis dans ton âme, parce qu'elle regarde les yeux de l'enfant. Et il y a quelque chose de vrai. C'est métaphorique, évidemment, mais ça exprime quelque chose de vrai. Alors, donc, la phénoménologie normale de Husserl, c'est implique la mise entre parenthèses de l'être. Et Husserl dit ça ouvertement parce que c'est un mathématicien, il a fait une thèse, sa thèse est une thèse de mathématiques, pure. Et donc, il formalise tout de suite. Il montre que la description de la phénoménologie ne peut exister qu'avec la mise entre parenthèses de l'être. Je trouve ça... C'est très bien de l'avoir dit. Parce que au moins, on sait que elle ne peut rien toucher à l'être. Dès qu'elle touche quelque chose de l'être, ce n'est plus ça. Elle reste dans du vécu. Le vécu, ce n'est pas l'être. L'être, c'est la source du vécu. Il faut aller plus loin. Votre vécu, votre état psychologique de ce matin, il n'est pas le même que celui d'hier. Alors, ça ne dit pas ce que vous êtes. C'est tout à fait secondaire par rapport à ce que vous êtes, parce que vous êtes le même et psychologiquement, vous n'êtes plus le même. Et pourtant, vous êtes le même. Substantiellement, vous êtes le même. Alors, voyez que serait une phénoménologie de la figura du visage humain faite dans la lumière de la substance. Alors, ce ne serait plus la phénoménologie habituelle du Husserl, celle qu'on appelle comme cela, normalement, celle qui remplace la métaphysique, c'est un ersatz de la métaphysique, puisque l'être est entre parenthèses. La métaphysique fait juste l'inverse. Elle recherche tout le temps l'être. Elle est à la poursuite de l'être. Partout où il y a être, la métaphysique regarde. Partout où il n'y a pas d'être, la métaphysique dit, ça ne me regarde plus. Demandez au psychologue, demandez à l'autre, l'être n'est pas là. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Votre état psychologique de ce matin, différent de votre état psychologique d'hier, ça ne m'intéresse pas. C'est vous qui m'intéressez. Et vous, si vous êtes suffisamment profond, c'est vous qui vous intéresse, c'est votre âme, et non pas les états de votre âme qui sont variables, qui varieront encore beaucoup jusqu'à la fin, tandis que votre âme restera la même. Puis c'est très important pour le voisin, votre état psychologique. C'est très intéressant de recevoir des coups de pied ou de pas recevoir, mais suivant que le voisin est de bonne humeur ou pas bonne humeur. C'est le milieu. Et les gens s'intéressent surtout à ça. À la réalité, non? Alors quand il s'agit de Dieu, la phénoménologie ne peut plus rien dire. Dieu n'a pas d'état d'âme. Complètement. Dieu, il est. Ah. Vous savez pas comment ça se passe, hein? Dieu, il est. Alors, une phénoménologie transformée par une métaphysique nous montrerait la manifestation visible de ce qui est invisible. Elle nous montrerait la relation qui peut exister entre la métaphysique et la manifestation, le vécu. Ce qu'on fait constamment quand on essaie justement de passer du TST, ce qu'est la réalité, au pose, au comment. Et c'est vrai qu'il y aurait un avantage énorme à montrer cela, et ce serait très intéressant, parce que ça montrerait que la métaphysique, loin d'empêcher une vraie phénoménologie, permettrait d'en avoir une. Je montre mieux la manifestation de la substance en sachant ce qu'est la substance qu'en l'oubliant, qu'en ne la regardant pas. Je sais toujours mieux ce qu'est la manifestation d'une chose quand je regarde sa source que lorsque je me tais à l'égard de sa source. Donc, je pourrais beaucoup mieux montrer ce que c'est que le visage humain et la profondeur du visage humain et comment le visage humain, par le regard, peut manifester ce qu'est l'âme et ses intentions. Son intention d'être uni à sa fin. Faire la phénoménologie du philosophe contemplant sa fin. C'est particulier et c'est vrai. Vous comprenez que le regard de quelqu'un qui est finalisé et qui sait ce qu'est sa fin n'est pas le même que le regard de l'égaré, qui ne sait pas où il va. Il y a une détermination profonde, vraie, qui vient de la substance et de la fin. Alors, voyez ce qu'il faut répondre. Que voulez-vous dire quand vous dites que la figura tend vers la simplicité à cause de la substance ? Pile à cause de ça. Si je veux aller jusqu'au bout du sens de la figura, la figura permet à la substance qui est naturellement simple et isolée, elle permet le contact avec les autres. D'œil, t'as dit beaucoup. Le regard, t'as dit beaucoup. On ne s'intéresse pas à vous, vous regardez celui-là, vous le regardez fermement, avec une volonté profonde de faire qu'il se retourne vers vous. Au bout de quelques instants, il va se retourner. Il n'y a pas que le coup de poing. très curieux, ces choses-là. Et plus vous avez affaire à des êtres spirituels, plus facilement ils sont sensibles à ça. Donc la figura permet les contacts. C'est très vrai, permet les contacts. Je n'avais pas la figura, il n'y aurait pas beaucoup de contacts. On voit très bien l'isolement du contemplatif, la solitude du contemplatif, sa substance qui le met en relation avec sa finalité, elle est intérieure, tout intérieure, et la figura est extérieure, elle se manifeste. Alors, avec quelqu'un qui n'est pas finalisé, il sera girouette. Girouette. On le fera tourner la tête comme on veut. Et il ira un certain temps dans le sens, un certain temps dans le sens. Voilà. Tandis que celui qui est très déterminé, il va dans le même sens. Un être qui a déterminé, qui a découvert vraiment sa finalité. Et tout va dans ce sens-là. Il se simplifie jusque dans la figura. Il se simplifie dans sa figura, c'est-à-dire que la détermination de la finalité est tellement grande qu'elle arrive à assumer tout. Et on voit ça chez les animaux. La figura d'un aigle est plus nette que la figura du moineau. Le moineau, il vole partout. Suivez un peu le moineau et l'aigle. Tout dans sa physionomie prend le caractère d'être pointu, comme son bec et ses ailes. C'est très curieux celui-là. Et je crois que on doit être attentif à ça. C'est la seule manière pour nous de dépister un peu quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. On ne voit que sa figura. On le voit pour ne pas perdre de temps. Est-ce qu'il est dispersé? Est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui rêve un peu partout? Tandis que quelqu'un qui est très déterminé, ça simplifie. Je crois que l'habit religieux est fait pour vous simplifier. C'est tracé. Ça simplifie, ça. Plutôt que d'avoir un gros chignon. Et les hommes qui ont des cheveux longs, ils veulent que ce soit plus compliqué leur vie. Et ordinairement, ils ont une vie très compliquée. C'est très curieux à noter. On voit très bien que la vie religieuse simplifie. Et la vie religieuse fait partie de la figura. Mais tous s'habiller de la même façon, mais il faut être un peu malade. S'habiller tous de la même façon. Oui, on est un peu malade. On est déterminé dans un monde indéterminé. Pourquoi qu'on ne veut pas l'habit religieux? C'était le nonce. Oh, c'est pas ces jours-ci, il y a déjà ce grand tournant de l'abandon de l'habit religieux, l'abandon de la soutane, l'abandon de tout ça. Il m'a dit, mais pourquoi en France les prêtres abandonnent si vite la soutane? Alors qu'en Italie, il n'abandonne pas. Il m'a posé la question. Et c'est vrai, il y a une raison. Il y a une raison. En Italie, il n'abandonne pas. Je suis persuadé que quand on est fidèle à la contemplation, qu'on est fidèle à sa vie religieuse, l'habit religieux, ça fait partie de nous. Ça fait partie de cette simplification de tout. Et là, on nous replonge dans la multitude en nous enlevant l'habit religieux. Et c'est très fort. On dit que la maison, l'habitat, fait partie de la figura. Puisque même des animaux, ils portent leur maison. L'homme, non, il la dépose à l'extérieur. Même l'homme primitif, je ne crois jamais que l'homme n'a porté sa maison. Mais certains animaux portent leur maison. Et une maison qui soit très lourde, la tortue. Une maison qui les cache. Elles sont prodigieuses. C'est invraisemblable. Comme invention. Des petits trous. Des petites fenêtres. Puis on voit passer, c'est vivant. On fait toc-toc pour savoir si... La maison, l'habitat, ça fait partie de la figura. Parce que on vit autrement quand on vit dans un cadre religieux que quand on vit sur la place publique. On a un pas à faire et on est sur la place publique. Et que le religieux est entouré normalement. La demeure religieuse est entourée normalement d'un jardin. Les chartreux, ils ont leur petit jardin. Et le kit, une fois par semaine. Les raisons de lumière, le jardin et l'église. C'est leur habitat. C'est très significatif, ça. Alors que vous donnez ça à habiter à quelqu'un qui est habitué, qui n'a pas de finalité, bah, il dit, c'est impossible de jouer là-dedans. Mettons vite la télévision. La télévision, on peut se promener partout. On va voir. Oui, ça va très loin, vous savez, ce que c'est que la figura. La figura n'est pas la seule manifestation. C'est la manifestation la plus visible, la plus éclatante. C'est celle que saisit parfaitement l'homme qui fait des caricatures. Au point de vue artistique, la figura est quelque chose de très grand. Et la figura des animaux et la figura de l'homme. Et se peindre, faire son portrait, c'est quelque chose de très curieux. D'assister longuement à sa physionomie, de voir que sa physionomie varie, alors que au fond, normalement, vous oubliez votre physionomie. On regarde celle des autres, c'est suffisant. La sienne, on oublie. Là, pas du tout. Reviens là-dessus. C'est très intéressant comme étude à faire. Parce que c'est la manifestation pour la manifestation. Ce qu'il peut y avoir de plus grand, c'est à travers cette manifestation montrer ce qu'on est, la substance, l'âme. À côté de la figura, vous avez l'habitus. L'habitus qui est la qualité de la qualité. La figura a comme fondement la quantité, qui est anti-qualité, qui est l'opposé le plus de la qualité. La figura rend la quantité qualitative. Grâce à la figura, la quantité devient vivante, devient belle, devient animée. Alors que sans la figura, elle serait terne, elle serait sans vie, elle serait triste, elle serait monotone. La quantité est source d'univocité, toujours la même. La qualité est source de diversité. Et ça, ça se voit très fort dans la figura. Par la figura, chaque individu est unique. Par la figura, par son âme. Tandis que par la quantité, par son corps, c'est un troupeau qui est le même. Point de vue, poids, grandeur. La qualité tout à fait différente que la figura, c'est l'habitus. Je crois que l'habitus, c'est comme une figure intérieure. Mon intelligence qui se développe avec l'habitus, parce que c'est les habitus intellectuels qui sont les plus manifestes, que je comprends le mieux. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un habitus de sagesse ? L'habitus philosophique, métaphysique. Mon intelligence qui, au point de départ, est tout ce que l'objet viendra le déterminer. Pas pareil, elle est toute chose. L'intelligence est toute chose. Elle peut être toute chose. Elle peut devenir tout et n'importe quoi. Elle peut être un capharnaüm de premier ordre. On fourre tout dedans. Regardez, tout ce que vous nourrissez intellectuellement, du matin jusqu'au soir, et encore au noviciat, c'est très... Ça passe par le permettre, hein, par la porte étroite, tout ce qui est secondaire et laissé. Mais quand vous regardez quelqu'un qui vit avec la télévision en face de lui, tout ce qu'il absorbe comme nourriture, c'est formidable. Un homme qui va toujours au cinéma, qui en dehors du cinéma, à sa télévision, et qui vit de cela, tout ce qu'il absorbe, panne d'oreille, tout. Il peut tout prendre, tout absorber. Donc, ça fait une figura qui fait que mon intelligence devient une bête vorace. Elle se nourrit de tout. Comme un petit moineau qui se nourrit. Quand on dit que manger comme un moineau, on mange pas du tout comme un moineau. Un moineau, ça mange plusieurs fois le poids de son corps, tellement il mange. Celui qui est dans la télévision, il prend plusieurs fois les qualités de son corps. Il veut tout. Il regarde un match de ballon, de rugby, passionné par ça. Il est rempli de coups de pied. Il ne voit plus que ça. Puis c'est tout après. Le film le fait regarder quelque chose de religieux. Il le voit à travers le match. voulez-vous que je puisse avoir une limpidité, une simplicité? Ah, cette qualité tend aussi vers la simplicité. Un habitus intellectuel, l'habitus métaphysique de sagesse philosophique. Puisque l'habitus de sagesse théologique, de sagesse mystique, le philosophe laisse à d'autres développer. Mais philosophique, il le développe, c'est le sien. Il unifie toute l'extension possible de notre intelligence et finalise tout. Et donc unifie cette potentialité si forte de l'intelligence pour que tout de suite on voit ce qu'il y a d'intelligent dans tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut expérimenter. Il en saisit la quintessence intellectuelle en remontant jusqu'à Dieu et en regardant tout de suite dans la lumière de Dieu. Qu'est-ce qui devient à la lumière de Dieu? Voyez comme cette qualité intérieure va unifier la potentialité spirituelle de l'intelligence. Cette potentialité intellectuelle qui est si grande, l'intellect passif, quasi infini, va s'unifier, s'organiser grâce à l'habitus. Tout pourra servir au philosophe, n'importe quoi. Il le voit toujours sous le même aspect de son habitus. Alors à ce moment-là, toute la diversité s'unifie, s'organise, et par le fait même devient extrêmement intéressante. Elle permet d'aller plus loin parce qu'elle s'organise, à la différence du petit moineau qui picore à droite et à gauche et rien ne s'organise. L'habitus philosophique, c'est vraiment la qualité de la qualité. Parce que l'intelligence comme telle est aussi une qualité. Et organiser cette qualité qu'est l'intelligence, l'organiser de l'intérieur, l'intelligence n'aime pas d'être organisée de l'extérieur. Elle l'est au début de sa vie, elle accepte un maître, et le maître organise de l'extérieur, et petit à petit, l'intelligence elle-même s'organise, et elle peut toujours s'organiser par le maître en s'affrontant à son maître, en puisant ce qui lui manque. C'est extraordinaire de voir ça. Comment s'organise en nous notre vie intellectuelle. L'intelligence qui a soif de vérité, qui a soif d'acquérir quelque chose de stable et quelque chose en même temps de profond. La vérité vient qualifier notre intelligence et grâce à l'habitus que nous avons, cette qualité qui est la vérité se décante tout de suite de toutes les fausses vérités, les imaginations. Parce que ce qui est terrible, c'est que l'intelligence passe par l'imaginaire. L'imaginaire est toujours là, tout le temps. Et l'imaginaire nous fait aller à droite et à gauche. L'imaginaire fait toujours bouger. C'est le propre de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est un mouvement constant. Il n'y a pas d'habitus pour l'imagination. Vous ne pouvez pas éduquer l'intelligence pour elle-même. L'art, ah, c'est un autre habitus intellectuel. L'art est encore un habitus. Et cet habitus, alors, vient s'emparer de l'imagination pour s'en servir, pour la rendre plus forte, plus profonde. Mais ce n'est pas un habitus intellectuel. L'art est un habitus d'une intelligence pratique, mais pas de l'intelligence pour elle-même. Et elle peut, l'art peut empêcher l'habitus d'intelligence pure de se développer. Elle est complètement à l'intérieur un affrontement. Elle est utile, très utile. J'ai toujours besoin de mon imagination, mais je dois m'en servir intellectuellement pour l'intelligence. Je dois m'en servir. Pour mon art, je fais plus que m'en servir. Je l'intègre. Elle est complètement intégrée dans la pensée de l'artiste. La pensée de l'artiste est faite d'imagination, est faite d'intelligence. La pensée de l'artiste est faite de tout cela. Et la pensée de l'artiste n'implique pas le point de vue de l'intelligence pour elle-même. C'est vrai, l'intelligence pour elle-même évite l'imagination, laisse de côté. L'intelligence pour elle-même évite la passion qui risque de tout brouiller. Elle veut une grande simplicité, une grande limpidité pour chercher la vérité pour elle-même. Et la vérité est qualité de l'intelligence, qualité de l'habitus. Cette qualité intérieure manifeste ce qu'est l'intelligence à elle-même. C'est pour ça que l'habitus peut vous jouer des tours terribles. Parce que par l'habitus, je peux réfléchir sur la qualité de mon intelligence et voir comment mon intelligence manœuvre. Voir comment mon intelligence manœuvre, c'est très intéressant au point de vue critique, mais ce n'est pas intéressant du tout dans la recherche de la vérité. Dans la recherche de la vérité, vous ne cherchez pas comment votre intelligence manœuvre. Vous cherchez ce qui est. Et voyez, cette qualité d'une qualité peut être pour l'intelligence quelque chose de très lourd à porter, qui fait que l'intelligence aime de réfléchir sur sa propre qualité, aime de se regarder à travers sa propre qualité, alors que l'intelligence devrait être tout entière tournée vers la réalité. La réalité à voir. Celui qui est sauvage, sans habitus, a d'une certaine manière plus de facilité à regarder objectivement ce qui est. il y a une certaine innocence de l'intelligence qui regarde la réalité telle qu'elle est, sans du tout s'intéresser à la manière dont on l'atteint, sans s'intéresser au tournant qu'on peut faire, sans s'intéresser aux différents apports extérieurs. C'est très étonnant, ça. On traitera toujours d'un réalisme de naïf, parce qu'il regarde la réalité. Alors que, de fait, la plupart du temps, les hommes regardent tout à travers leurs habitus, à travers leur manière de connaître. Telle chose m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup intéressé. Et alors c'est ça, parce que ça m'a beaucoup intéressé, c'est très intéressant. Même si c'est très peu dans l'ordre de la vérité. C'est très étonnant, ça. Vous voyez, la subjectivité des qualités intellectuelles, c'est-à-dire des habitus, peut jouer des tours pendables à l'intelligence. L'intelligence qui est faite pour atteindre la réalité, qui est faite pour regarder ce qui est, à ce moment-là, modifie ce qui est par ses qualités, par ses habitus, et au fond, voit tout à travers ses habitus. Ça se voit beaucoup pour la logique. C'est très curieux, ça. C'est l'habitus, d'une certaine manière, très important pour la communication, pour dire clairement ce qu'on pense, pour montrer les liens qui se créent, mais aussi l'habitus de logique qui à la fois est un art et en même temps un habitus intellectuel. C'est très curieux. C'est comme ça que saint Thomas l'appelle l'art des arts, parce que c'est l'art vis-à-vis de l'intelligence. Comment l'intelligence voit tout à travers l'universel. Parce que l'intelligence voit tout à travers l'universel, l'intelligence constamment revient au genre, différents spécifiques, la définition. Le défaut de la scolastique, c'est qu'on fait de la philosophie pour faire de l'art, pour faire de la logique. Le seul intérêt de la scolastique, c'est le point de vue de la logique. Elle est très forte en logique. On me disait l'autre jour que les anciens élèves de l'IPC poussaient beaucoup l'art, ils poussaient beaucoup la logique, étaient très forts pour poser des questions. Et que ceux qui retrouvaient la métaphysique étaient beaucoup moins forts pour poser des questions. Ils regardaient, ils écoutaient, ils ne posaient pas toujours des questions. Je crois que ça fait bien comprendre comment un habitus transforme intérieurement un pouvoir, une puissance. Cette puissance intellectuelle qu'est l'intelligence, on peut la transformer. On peut en faire une puissance qui est prise par la logique. On peut faire une intelligence qui est elle-même et qui cherche la vérité. Il y a quelque chose de très curieux dans la qualité qui se manifeste. Les habitus intellectuels permettent à l'intelligence de se manifester. Or, ce n'est pas le rôle de l'intelligence. Vous voyez, quand vous dites quelqu'un, il parle très bien, mais il s'entend trop. Tout ce qu'il dit, il l'écoute. Et il trouve que c'est très bien. Et les autres, par le fait même, doivent trouver aussi que c'est très bien. Ils s'écoutent. On parle pour soi. Et c'est l'habitus intellectuel qui permet à l'intelligence de se replier sur elle-même et de se regarder elle-même à la place de regarder l'objet. De regarder le pli que la réalité lui a fait faire. La manière dont l'intelligence doit regarder le réel. Donc, voyez, ces deux habitus, ces deux qualités, plus exactement, tout à fait différentes. La figura et l'habitus. Figura, la qualité visible. L'habitus, la qualité invisible. Et il y a un parallélisme qui serait très intéressant à faire entre la figura et l'habitus. Dans la phénoménologie, les deux se retrouvent. Vous en avez une qui est logique, l'autre qui est artificielle, qui est l'art. Et on comprend très bien, on se mire à travers la logique, on se mire à travers l'art. Et c'est l'intelligence qui, à la place de regarder l'objet, se regarde, se contemple, s'intéresse à soi et s'arrête à elle-même.